Vincent-Joseph Soulier, bonjour. Vous êtes le responsable de la maison des étudiants à Pau au sein de la nouvelle maison diocésaine Saint-François-Xavier. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé à ce poste, pourquoi vous l'avez accepté et qu'est-ce que vous en attendez?
Oui, bonjour Nathalie. Donc j'ai entendu parler du projet du foyer il y a maintenant 2 ans. Dans cette maison, nous n'étions pas du tout palois avec mon épouse, on habitait en Savoie. Mais on avait dans l'idée de se rapprocher géographiquement de nos familles qui sont plus dans l'ouest. Donc on s'est dit Pau, pourquoi pas. Ça faisait un petit moment qu'on avait à cœur de faire une mission familiale dans le cadre de l'église. Donc apporter notre pierre voilà, dans le cadre de l'église, faire quelque chose pour un service pour telle ou telle structure ou entité, etc. On cherchait en fait. Et l'annonce enfin, de cette ouverture de cette maison, de ce foyer, est tombée à pic. On s'est dit, tiens, si on répondait à cette mission, si on postulait pour justement faire quelque chose qui soit vraiment familial. C'est-à-dire qu'on est là, dans cette maison, en famille, pas uniquement en couple. Et nos enfants ont un rôle bien précis dans l'histoire.
Quel âge ont vos enfants?
Ils ont bientôt 8, 6, 4 et presque 2. Voilà. Donc on a vraiment senti les choses se rejoignaient dans notre désir de faire quelque chose familialement et en même temps cette opportunité qui s'ouvrait dans une région de France qui n'était pas... les plus désagréables, ce qu'on pensait, ce qu'on savait. Et donc, on a postulé, et ça s'est construit, et on est arrivé, on a déménagé en août dernier, 2025, et on a pris la responsabilité du foyer dès la rentrée de septembre, donc avec 10 étudiants, 4 étudiantes et 6 étudiants, qui sont donc installés dans cette maison. Ils ont chacun une chambre individuelle et voilà. Donc on a démarré cette mission un peu. On l'avait préparée hein, pendant quelques mois au préalable. On avait écrit une charte pour les étudiants. On a écrit un règlement. Enfin voilà.
Concrètement, comment ça se passe avec les étudiants? Quels sont les moments? J'imagine que vous avez des temps forts avec eux. Peut-être des temps de prière ou de partage. Vous pouvez préciser un peu plus votre rôle par rapport à justement cet accompagnement de ces 10 étudiants.
Ce qu'on dit à nos étudiants, c'est qu'on est leurs grands frères et grandes sœurs pendant toute l'année. Donc on n'est pas leurs parents, on n'est pas non plus les surveillants d'un internat, parce que ce n'est pas un internat. On est des grands frères et grandes sœurs, donc on est leurs premiers interlocuteurs pour tout type de problèmes matériels. Hein. Ça peut être des choses toutes simples, du matériel cassé, des problèmes de badge pour rentrer, enfin voilà. Et principalement, on est les garants de l'esprit de foyer. Nous, on a souhaité créer un esprit de foyer. C'est pas un internat, c'est pas une colocation, c'est pas une communauté. C'est des étudiants qui vivent sous le même toit, qui ont une mission commune. Alors cette mission est donnée par l'évêque, hein, je vais y revenir. Qui ont une vie commune et qui passent par quatre piliers qu'on a déterminés dans la charte. Et ces piliers, c'est d'abord la vie chrétienne, donc effectivement il y a une vie de prière. La vie chrétienne, la vie qui inclut aussi de la formation. Ça, ils ont ça à l'aumônerie étudiante. Une vie fraternelle, donc des moments conviviaux ensemble, donc ça c'est tous les lundis soirs, on a un moment convivial avec eux, alterné une fois sur deux, apéritif ou dîner, donc des moments conviviaux, on les incite à eux créer eux-mêmes des moments entre eux, sans nous, ils ont pour ça des salles, etc. Donc ça c'est le deuxième pilier, le troisième pilier c'est la vie de service, et là donc on est sur la mission qui est confié par l'évêque, alors c'est pas lui qui l'a fait directement, mais l'année prochaine ça sera le cas. Leur mission c'est d'être un noyau témoin au sein du campus universitaire. Et donc l'idée, tous les mercredis soirs ils ont l'aumônerie étudiante. Donc aujourd'hui leur leurs obligations, c'est lundi soir un foyer et mercredi soir l'aumônerie étudiante. Et l'aumônerie étudiante, l'idée, c'est qu'ils soient témoins dans le campus universitaire et qu'ils ramènent des étudiants à l'aumônerie étudiante pour que l'étudiant, le plus possible d'étudiants, puisse faire cette expérience et puis rencontrer éventuellement le Seigneur. Voilà, en tout cas, avoir quelques fondements de formation, etc. Donc ça, c'est leur mission. Cette année, c'est comme ça. Et parallèlement à ça, il y a aussi l'idée que les étudiants font vivre cette maison. Enfin, ils font partie des habitants de cette maison et donc ils sont... font partie des hôteliers de cette maison, qui sont finalement la communauté, les chanoines, les étudiants et nous qui habitons là.
Donc, et le quatrième pilier ?
Le quatrième pilier, c'est la vie de travail.
La vie de travail, oui.
Parce qu'ils sont quand même là pour bosser oui, et faire leurs études.
On va parler un peu plus de vous. Ouais. Vous êtes, on dit gestalt, c'est ça,
oui.
Gestalt thérapeute.
C'est ça.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Et est-ce que cette vision rejoint la vision chrétienne de l'homme dans toutes ses dimensions ?
Pour expliquer ce que c'est, concrètement, c'est une méthode qui est née en Autriche dans les années 50 par un certain Fritz Perls, qui est allé, je crois qu'il était juif, il est parti aux États-Unis. Il a rencontré aux États-Unis tous les pionniers de la psychologie, qui c'était vraiment l'essor à cette époque-là. Mm-hmm. Et il s'est enrichi de plein de choses. Et il a apporté quelque chose de nouveau, c'est qu'il a accentué la méthode sur la relation thérapeutique. La Gestalt s'appuie sur la relation thérapeutique pour soigner. Et ça, maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de méthodes qui s'en vantent, mais à l'origine, c'est la Gestalt qui l'a apporté ça. Donc, l'idée, c'est que la personne vit des expériences, on vit tous des expériences, mille expériences, et on revit dans le cabinet, avec le thérapeute, certaines expériences. Et le thérapeute aide la personne à mettre de la conscience sur des fonctionnements, des mécanismes, des choses qui se sont installées petit à petit avec le temps, avec l'éducation, les blessures, les deuils, les carences, etc. Donc l'idée, c'est d'inviter la personne à entrer en contact avec elle-même pour essayer de prendre conscience de la manière dont elle perçoit le monde, et dont elle perçoit elle-même d'ailleurs aussi, pour que là où c'est figé, là où c'est bloqué, elle remette de la fluidité, elle remette de la nouveauté, de la possibilité, etc. Donc on travaille beaucoup vers de la plus grande liberté intérieure, et on travaille beaucoup sur la responsabilisation, la manière dont... la personne se responsabilise dans ses épreuves, dans ses difficultés, dans ses blocages, etc. J'aime bien utiliser cette phrase, c'est « je suis le produit d'une histoire dont je cherche à devenir le sujet ». Et on y va ensemble. Et en fait, l'idée, c'est que la personne va revisiter des endroits, des zones qui sont douloureuses ou difficiles, mais pas seule. Et donc, on va réguler l'émotion pour pouvoir ensuite réparer. Donc, si vous voulez un résumé, il y a 4 R. C'est reconnaître les reproductions pour les réguler et les réparer.
Vous avez passé 7 ans, je crois, à la CRASSE.
Oui.
Qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre vie actuelle? J'imagine que ça ne laisse pas indifférent de passer 7 ans dans une vie d'une communauté religieuse. Par rapport à votre profession, par rapport à votre engagement, par rapport aux étudiants dont vous vous occupez, qu'est-ce que ça a pu vous apporter ?
Beaucoup de choses. Moi, je considère que c'est une chance inouïe d'avoir pu faire cette expérience. Ça m'a apporté d'abord un ancrage de ma vie de foi, une formation quand même assez solide, assez complète, notamment en philosophie. Hein, ça m'a ouvert. Ça m'a vraiment ouvert des horizons que je n'aurais peut-être jamais rencontrés. Enfin, la philosophie, moi, ça a été une révélation. J'ai découvert vraiment un monde absolument passionnant que j'étais très triste de quitter, mais il fallait bien. Et puis, Et alors justement, pour faire le lien avec mon métier actuel, ça m'a donné l'envie et le goût de l'humain, mais vraiment au sens... J'ai fait l'expérience en tant que jeune religieux du soutien qu'on peut apporter alors qu'on n'a pas grand-chose, pas beaucoup d'expérience, qu'on est un petit jeune d'eau, du soutien juste par l'écoute aux personnes qui viennent se confier, etc. Et ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et je dirais que j'ai longtemps pensé, je le pense encore quoi, pas mal, que je ne sais pas faire grand-chose d'autre en fait. Et j'ai beaucoup réfléchi à la grâce et puis après à ce que je pourrais faire de mes 10 doigts. Et j'ai tenté des choses, hein, j'ai fait de la logistique, etc. J'étais manager, c'était pas forcément la position dans laquelle j'étais très à l'aise. Et en réfléchissant, j'ai fait des coachings, etc. Et au moment où je me suis rendu compte que la seule chose que j'étais vraiment capable de faire, c'était de créer un espace où la personne peut venir se dire, se raconter, et voilà. Et alors après, je me suis formé, donc maintenant j'ai des outils, j'ai des connaissances, etc. Mmh. Mais ce que j'aime profondément, et ça je l'ai découvert à la grâce, en étant religieux, c'est d'ouvrir l'espace. Et voilà. Et en fait, à la grâce, en vie religieuse, on apprend, c'est pas que à la grâce, hein, on apprend le silence, on apprend la prière, on apprend la réflexion, on apprend l'ouverture, la charité fraternelle à son frère le plus proche, qui n'est pas forcément la charité la plus facile à exercer. Et en fait, à chaque instant, on est ramené à ça, de comment est-ce que l'autre existe dans mes yeux, dans mon cœur. Et c'est là, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain. Enfin, moi, je suis absolument passionné par mon métier et je bénis le ciel tous les jours de faire ce métier. C'est qu'on laisse l'autre exister complètement tel qu'il est, avec toutes ses failles, toutes ses limites, etc. Et il est là et on est ensemble.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Vincent-Joseph Soulier, ouais. Un grand merci.